marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
10h, salut, bon matin, bienvenue sur les ondes de boulevard 101. Mon nom c'est Yann Marceau, je suis accompagné d'Audrey Pinchot. Salut Madame Pinchot.
Hola.
Content de vous voir, madame.
Oui,
vous avez de l'air à pic ce matin.
Content de vous voir, vous avez l'air à pic, ça c'est vraiment...
Toi et la patronne, je me suis dit que c'était pas la journée pour faire de mauvaises blagues.
C'était une bonne façon ça d'entrer en communication avec quelqu'un et t'as vraiment l'air à pic aujourd'hui.
Oui, non, je vais doser mes interventions à ton égard.
Non, mais c'est... Le pire, c'est que non, t'as pas à faire ça. Là. Mais tu sais, il y a des environnements puis des journées où on dirait qu'il y a une tempête de neige.
Hier, c'était ça.
Ben, ici, à matin aussi. Les gens sont énervés, les gens jasent partout, crient partout dans le corridor. Il y a comme un... Puis je pense que Véro et moi, on a mal dormi la nuit dernière.
Ah oui?
Puis Véro et moi, on travaille au même bureau face à face. Puis,
Vous étiez ensemble cette nuit?
Non, on n'était pas ensemble. On aurait... Écoute, peut-être qu'on aurait mieux dormi, je sais pas. Mais... oui, on a le caractère un peu plus à pic, mais de bonne humeur.
Moi, j'ai averti mes chums. Là. Tous ceux que j'ai croisés, je disais à Max, pas le temps de faire des jokes à Véro et Audrey, vous allez passer par là, les gars.
Franchement.
Non. Quand une femme n'est pas de bonne humeur, peu importe la blague, ça ne passera pas.
Pas de mauvaise humeur. Mais tu sais, ces journées-là où on dirait que tout bourdonne dans tes oreilles.
Ouais.
Tu sais, c'est je sais pas comment l'expliquer. Ben, à moi, fleur de peau, là.
C'est du lundi au dimanche, là.
Oh, franchement, t'es pas à fleur de peau, toi, dans la vie.
Oui, mais ça paraît jamais.
Sais-tu quoi? Faut que je te dise, par exemple, que ça se sent.
Ça se sent?
Je pense que ça paraît pas dans ta face.
C'est l'odeur.
Mais ça se sent. Ouais, mais ça, je pense que c'est un don que t'as ou t'as pas, là, tu sais, de sentir la read the room, là.
Ouais.
Je pense que ça se sent quand t'es plus à pic.
Tu vois, j'ai pas cette impression-là. Non. Mais c'est pas grave. On va passer une super belle journée quand même. Je sais pas vous autres comment ça va chez vous, à la maison ou encore au travail. 418-971-1021. 418-971-1021. Comment ça se passe, vous autres? Vous de mauvaise humeur? C'est-tu le manque de lumière?
Ben sûrement que ça aide pas.
Tu sais, moi, là, je suis parti travailler ce matin, 6h15, faisait noir.
Mm-hmm.
Ce soir, je vais arriver chez nous vers 7h15, il va faire noir.
Ouais. C'est drôle que tu dis ça parce que hier, quand je suis arrivée à la maison, j'ai comme pris un grand respire avant de rentrer dans la maison, puis je me suis dit, tabarnouche, j'avais pas respiré d'air frais, puis je sais pas combien d'heures.
C'est vrai?
Mais tu sais. Ces temps-ci, parce que c'est la première semaine de retour, je sais pas toi, mais moi, j'ai de la misère à tout remettre en place en même temps. Fait que, tu sais, je prends pas de marche, mettons, là, cette semaine. Là. Je me lève pas plus tôt, j'essaie de, comme, rebâtir l'horaire. Fait qu'on dirait que, c'est ça, je vois pas le dehors, je prends pas l'air, j'ai pas... Puis moi, ça fait tellement du bien, là, d'aller marcher dans le bois, mettons, de...
Ouais, puis la lumière, un peu de soleil, voir un peu ce qui se passe dans la nature et tout ça. Mais c'est ça, il y a un gros manque de lumière. Je pense que tout le monde souffre peut-être un peu de ça. Puis on était dans les pires semaines des dernières semaines. Puis là, on s'en va vers le mieux, mais c'est ça. 6h15 ce matin, je suis parti. Puis je vais arriver ce soir à la maison, il va faire noir. Puis là, je vais m'asseoir avec ma blonde. Puis après ça, on s'en va faire l'amour. Puis après ça, on dort.
Dodo. Hey, une chance c'est qu'on a des grandes fenêtres en studio. Le dites-vous quand vous êtes de mauvaise humeur?
Moi, non.
971-1021, est-ce que vous le dites?
Jamais.
Moi, quand je sens que ça peut peut-être, parce que tout me paraît dans la face, fait, quand je sens que ça peut peut-être affecter des gens autour de moi, je le dis.
Ah ouais. C'est une bonne chose.
Je sais pas, hein? Peut-être pas. Peut-être que ça fait plaignard.
On sait à quoi s'en tenir.
Ben, c'est un peu ça, je me dis. Puis c'était ce genre de matinée, Yann, aussi, où tu sais, tout, t'es de la merde.
Mais voyons.
Genre, j'ai échappé. Non, mais là, faut pas pousser. C'est vraiment pas. Il y a des situations bien plus graves que ça dans la vie. Là, je me plains, OK? Là. Mais genre, j'ai échappé ma clémentine à terre. J'avais vraiment hâte de manger une clémentine. Elle s'est ramassée à terre. Je peux plus manger ma clémentine.
Tu l'as pas nettoyée?
Ben, non, j'ai comme celui dessus, mais elle était pleine de petites graines. Fait que là, rendu là, j'avais pas
nettoyé.
Mangé des graines à matin.
Tu passes ça à l'eau?
Oui, peut-être. Je l'ai jeté. J'ai jeté une partie de clémentine. Je me suis acheté de l'eau pétillante à Lim. J'avais tellement hâte de boire de l'eau pétillante. J'avais le goût de ça le matin.
Hein?
Ben, j'ai pris une marque genre President's Choice. Ils mettent du stevia dedans. Fait que ça goûte genre là, le 7-Up. C'est dégueulasse. Tu sais, ce genre de matin-là où juste rien marche. Mais c'est rien de grave.
OK, mais c'est quoi qui te rend de bonne humeur, là? Comment on peut faire pour changer ton mood, là?
Là?
Ouais.
Conte-moi une joke.
Hey boy. Qu'est-ce qui est petit, carré puis jaune?
Petit, carré puis jaune. Je sais pas.
Un petit carré jaune.
Oh, franchement. OK, c'est calme. Je souris. Je suis pas crampé, mais je souris.
C'est Cotton Eye Joe. Comment ça s'écrit, Cotton Eye Joe?
C-O-T-T-O-N.
C-O-T-T-O-N.
Aïe.
Je l'ai cité.
Tu vas mettre ça?
Ben oui, j'ai pas le choix. Peut-être moi me gosser après. Cotton Eye Joe.
Where did you come from? Where did you go? When did you come from? Cotton Eye Joe.
Puis, ça a-tu marché?
Ça a marché.
Bon. Moins 6 degrés sur Québec, faible neige aujourd'hui, c'est ce qu'on nous mentionne. On parle de 2 cm maximum. Avec le refroidissement éolien, ça peut être une température qui va ressembler à un genre de moins 11. Mais voyez-vous, là, je regarde avec le radar qui est à l'aéroport international Jean Lesage. Avec le refroidissement éolien, c'est une température ressentie de moins 14, mais on nous dit moins 6 pour aujourd'hui actuellement. Pour ce qui est de demain, alternance du soleil et nuages avec un maximum de moins 1. Pour ce qui est de samedi, dimanche, ce sera nuageux avec un maximum de moins 7. Dimanche, ce sera alternance de soleil et nuages avec un maximum de moins 4 degrés. Aujourd'hui, gros show, Carl Ruel, qui est un agent correctionnel à la retraite, qui va venir faire son tour pour nous parler de comment ça fonctionne, le métier d'agent correctionnel, qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur des murs, les choses qui sont le fun, mais les choses qui sont extrêmement difficiles, les événements qu'il a vécu, qui doivent sortir de l'ordinaire, là, qui pourraient nous jaser. Fait qu'on va jaser avec lui pendant plusieurs minutes, puis on va voir de la visite, de la super de belle visite, puis on se considère comme choyé d'avoir eu la chance de rencontrer ce petit ange-là au mois de décembre, quand on a fait la fameuse journée des vœux de Noël de Leclerc Communication. On a ramassé de l'argent, on a ramassé 80 000 $ pour les soins palliatifs du Centre Mère Enfant Soleil, et il y avait un enfant qui était venu en studio, on l'aime bien l'appeler Big Boss Bouchard, puis on lui avait fait écouter la chanson Thunderstruck, et malheureusement, dans les dernières heures, on a appris qu'il était en fin de vie.
Ouais.
Il ne reste pas énormément de temps pour lui.
Il vient d'entrer aux soins palliatifs.
Et il reste des rêves à accomplir, puis d'autres rêves qu'il aimerait ravoir. On fait partie d'un de ses rêves, c'est-à-dire de venir dans une station de radio, de venir dans un studio, puis écouter sa chanson préférée, qui est Thunderstruck des CDC. Fait qu'il va venir faire son tour vers les entours de 11h. Je vous le dis, je ne sais pas comment ça va, je vais sortir de ça. Là. Fait que je ne sais pas. Moi, ça me frappe. Chaque fois que ça touche les enfants, ça me frappe vraiment. Puis on va parler avec Dr Julie Laflamme aussi qui est là, puis sa mère, j'imagine que j'ai eu la chance de rencontrer, qui va venir en studio. Fait que Big Boss Bouchard, notre chum à nous, qui va venir faire son tour en studio vers les entours d'11h.
Tu sais, ça va être un moment où on va pouvoir un peu vous expliquer aussi, de quoi il est atteint. J'ai hâte de le rencontrer parce qu'en octobre, quand on a eu les vœux, j'étais absente. Puis j'ai tellement entendu parler d'Eliott. J'ai vu des images de lui circuler, évidemment, sur les réseaux sociaux. Un petit gars qui est tellement vivant, plein de joie de vivre, en fait, qui trippe, tu sais.
J'ai fait 2 courses contre lui, hein.
Ben, j'ai entendu ça.
Parce que je cherchais. Je voulais faire une course. Puis je cherchais le maillon faible de la place. Et là, je me suis dit, tiens, un enfant.
Et finalement.
J'ai fait la course avec lui, puis finalement, il m'a battu 2 fois.
Il a gagné. Ouais. Ça va être un plaisir de faire sa rencontre ce matin puis de réaliser un de ces 3 rêves. On vous les partagera tantôt. C'est des affaires tellement simples. Puis tu vois que le bonheur se retrouve dans les petites choses.
J'ai des choses à vous annoncer, les buveurs de café, dont je fais malheureusement partie. J'aime le café. J'adore le café. Je boirais juste du café du matin jusqu'au soir. J'aime aussi la Coors Light et j'aime le vin. Mais le café fait partie de ma vie à tous les jours.
Combien par jour, tu
prends? Parfois, j'ai surexploité ce désir de prendre du café, ce qui fait en sorte que je me suis probablement mis dans une situation où mon cœur faillit faire une crise cardiaque. Là. Mais je dois avoir pris au maximum, quand j'en prenais beaucoup, là, c'était à peu près 8-10 cafés par jour.
8-10, Yann? Ouais.
Ben oui, ben je veux dire, je faisais des grosses journées. Je me levais à 6h le matin, je me couchais à minuit le soir.
Mais voyons
fait
donc!
Calcule ça comme tu veux. Il y en a, tu sais, il y en a que c'est la cigarette, il y en a d'autres que c'est l'alcool. Moi, c'était le café.
C'est-tu combien tu dois en prendre au maximum par jour, selon les études?
Je sais pas.
3.
C'est 3 maximum.
Ouais. Ouais. On parle de 400 mg de café, ce qui équivaut à comme 3 tasses, ouais. Mettons.
Pas mal certain, je me suis déjà rendu à 8-10 sans aucun problème. Puis quand j'étudiais la nuit, là, sérieux, là, c'était l'enfer. Je prenais des gros silex, là, puis j'étais sur le point des fois de mettre du lait directement dans le silex, là. Parce que fallait que je passe la nuit, fallait que j'aille faire mon examen le lendemain. Oh, ouais.
Ça faisait effet sur toi quand même non. À boire cette quantité-là?
Non, mais ça m'empêchait de dormir.
Ah, okay.
J'avais plus la surexcitation qu'on peut avoir quand on prend trop de café et de caféine, mais ça m'empêchait de dormir. Fait que j'ai utilisé ça. Il y en a d'autres à l'université qui prennent des pilules, la fameuse pilule magique.
Oui, absolument. Cette pilule-là, il y en a qui vont prendre des boissons énergisantes.
C'est ça. Moi, c'était le café. Puis heureusement, en vieillissant, j'ai diminué ma consommation de café tel que maintenant, je suis rendu à 2 ou 3 cafés par semaine.
Par semaine?
Oui.
Mais c'est quoi tu bois tous les matins? Vanille française?
Non. J'ai pris un chocolat chaud ce matin,
C'est de l'eau. Moi, je suis là, puis je sens.
Puis là, je bois de l'eau chaude.
Ah ouais, fait que tu vas te chercher 1 à 3 cafés par semaine, puis le reste, c'est du chocolat chaud ou du vanille française.
C'est ça. Mais peut-être un chocolat chaud. Là, tu vois, j'en ai pris un hier, j'en ai pris un aujourd'hui. Demain, j'en prendrai peut-être pas. Mais j'ai besoin de cette chaleur-là le matin que le café me procurait.
Puis le thé, mettons, ça t'intéresse pas?
Ça goûte
pas?
La marde. Ça... Je suis désolé. Hey,
mais il y en a des bons.
Je ne sais pas comment vous faites. J'en ai aucune idée.
C'est trop dilué pour toi.
Je n'ai pas développé mes goûts. Je suis un peu retardé. Le thé, je suis incapable. Oh, puis ouais. Le café, ben, j'ai toujours trippé là-dessus. Mais là, j'essaie de m'en départir. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a une étude qui a paru. Et bon, il y a probablement une autre étude qui va détruire l'étude que je suis en train de vous jaser ce matin.
Surtout
dans les
le
prochaines
café,
semaines ou dans les prochains mois. Tu sais, la fameuse industrie du café vont dire « Ah, faut réagir. On va embaucher des scientifiques. On va les payer, puis ils vont dire exactement ce qu'on veut qu'ils disent. » Mais je te pose la question, Audrey. Matin ou après-midi que tu prends ton café ou que c'est préférable de prendre ton café?
Ben j'ai goût de te dire matin. Ah oh, non, en fait, après-midi. Parce que si tu vas par logique, normalement, il me semble que quand tu te lèves, tu es quand même réveillé. Fait que si j'avais à choisir un moment, je le prendrais, mettons, avant le show, moi.
Alors que la majorité des gens prennent leur café en se levant.
Ben oui.
Après ça, il y a des gens qui prennent leur café en fumant une cigarette.
C'est vrai.
Il y en a qui ont développé des habitudes complètement capotées. Mais l'étude est capable d'établir une corrélation entre les gens qui prennent le café le matin versus les gens qui prennent le café l'après-midi et de dire, ben, vous allez vivre plus longtemps ou moins longtemps.
Puis c'est quoi le mieux?
Ben, t'as un peu, vends pas mon punch.
Ben là, non, j'attends. Je veux savoir si je vais vivre longtemps ou pas.
Boire du café le matin! Plutôt que d'en prendre l'après-midi ou de ne pas en consommer du tout, ça réduirait les risques de décès globaux de 16 %. C'est une étude qui a été publiée et qui a été faite sur 40 000 adultes américains entre 1999 et 2018. Donc, si tu avais à prendre le café, de ce qu'on comprend, faut que tu le prennes le matin.
Oh, ouais! C'est-tu parce que ton organisme est vide, genre?
On reçoit un docteur tantôt.
On posera la question.
Tu y demanderas. Écoute, l'étude longitudinale qui a été publiée dans le European Heart Journal, que je lis tous les jours, les amis, rapportait que les consommateurs de café qui boivent leur boisson chaude entre 4h et midi présenteraient un risque de décès global plus faible de 16% que ceux qui en consomment en après-midi ou même pas du tout. Selon l'étude qui a suivi les 40 000 personnes que je vous parlais tantôt, le buveur de café aurait également 31% moins de chances de mourir d'une maladie cardiaque par rapport au non-buveur de café.
Mais voyons donc.
Oui, ça c'est quelque chose que je savais. Tu bois du café régulièrement, pas aussi intense que moi, les étapes que j'ai eues avec l'école et tout ça, là, mais tu bois du café régulièrement, ton cœur, il travaille.
Fait que le grain de café est bon pour le cœur. Faut juste pas t'en abuse.
Exactement.
C'est comme dans tout, finalement.
C'est comme dans tout sauf le sexe.
D'équilibre.
C'est comme dans tout sauf le sexe. J'essaie de convaincre ma blonde, mais elle me croit pas tout le temps.
Elle te croit pas, hein, c'est ça que je me disais.
Elle dit, attends un peu, là, moi je suis infirmière clinicienne, tu peux pas m'en passer une.
Oh. Colline.
Mais je récidive le lendemain.
Oui, t'essayes. Non, mais
tu sais que
bien.
C'est très bon. Mais c'est ce qu'il mentionne. Ce qui est particulier, c'est que peu importe le nombre de tasses de café consommées ou le type de café, décaféinés ou non, les risques de décès étaient toujours plus faibles pour ceux qui boivent leur café en matinée que l'inverse, ceux qui continuent d'en consommer en après-midi et même le soir. Moi, j'étais rendu, puis il y a plein de gens autour de moi qui pouvaient en témoigner. Là. Je pouvais prendre un café à minuit le soir. Minuit et demi, j'étais couché, je dormais comme un bébé.
Mais voyons!
Parce que j'étais la fameuse caféine n'avait plus d'impact sur moi.
T'en avais trop pris.
J'en avais trop pris, ouais.
Fait que là, à ce jour, tu le bois encore pour le plaisir?
Ouais, c'est pour le goût, là. J'étais à 2-3 par semaine, c'est
temps. Bon, 2-3, mais t'arrives avec une carafe, là. Ah,
depuis longtemps, j'étais à 2-3 par semaine. Je te dirais, depuis, ça fait... écoute, ça fait...
3 semaines?
Si je bois 2 cafés, mettons, aujourd'hui, ce serait la première fois de l'année.
OK.
Ouais.
Ah. Fait qu'écoute, c'est une bonne habitude que t'en crées depuis un bon moment. Là.
Fait qu'on s'améliore.
Non, mais c'est beau, les objectifs.
Attends un peu. Les chercheurs ont estimé que ça pourrait être dû au fait que le café matinal s'alignerait mieux sur les cycles naturels de sommeil et d'éveil du corps.
Ah, mais ça, j'en doute pas, par exemple.
Parce que moi, le mauvais réflexe que j'avais, c'est que quand j'allais dîner, tu sais, on mange beaucoup. Là. Moi, ouais. Je suis un gars qui mange beaucoup dans la vie. Là. Fait que sur l'heure du dîner, je mangeais beaucoup. Puis je savais que j'allais avoir un petit kick-down en retournant à job en après-midi. Fait que ce que je faisais, c'est que je me tapais 2-3 cafés, ce qui faisait en sorte que j'étais capable de passer mon après-midi jusqu'au soir.
Je trouvais ça logique, moi, tu vois.
Mais c'est de la dope, là. La caféine, c'est de la dope, là.
Tu sais que j'ai pas de... T'as-tu une cafetière à la maison?
Moi, j'ai une machine à café là, avec des capsules. Là.
Ah oui, oui, oui. Une espresso, genre. Là.
Non, ben trop cher, ça.
Ah oui?
J'ai acheté une patente à 75$. Elle me dure depuis 10 ans, puis tout va bien. Là.
Parce que moi, j'ai pas de machine. Puis la seule raison pour laquelle j'en ai pas, parce que j'adore le café, c'est que j'aurais peur de devenir une de ces addicts. Hey, le monde, ils se promènent dans des corridors ici en disant qu'ils ont mal à la tête quand ils prennent pas leur café le matin.
Ah ouais, il y en a qui ont mal à la tête. C'est vrai, ça peut causer des maux de tête. Moi, ma blonde m'avait parlé d'une machine super hot là, qui vaut comme 1000 quelques piastres. Là.
T'en as 5000 si
puis,
tu veux.
Ouais, c'est ça, mais c'est pour la maison de ce que je comprends. Ouais. Là. Puis là, tu pouvais faire comme 1001 cafés là-dedans. Puis là, quand j'ai lu le manuel de l'entretien, j'ai dit « Oh diable, la machine ».
Ça te tentait plus, hein?
On va garder notre patente à 75$. Ça fonctionne, ça va bien aller.
Mais les automatiques sont moins pires, mettons, que les manuels.
Elle ira chez Starbucks.
Ouais. Ouais. Ça, ça te ruine un portefeuille, ça, un
temps.
Faut
tout le temps que tu nettoies ça. Faut tout le temps que tu entretiennes ça. Tandis que la fameuse capsule où tu mets juste de l'eau, là.
Oui.
Puis ta capsule. C'est simple.
Mais oui. Mais encore là, t'en as des automatiques qui s'auto-nettoient, mais faut que tu mettes le prix. Là.
Non, après ça, elle va me demander d'y faire des petits expresso cappuccino. Va falloir que je fasse des tickers là-dessus.
Ben oui, t'as des stencils pis tout. Là.
Attends un peu. Là.
Allez chez Café Sebab, ils ont tout ça.
Oui.
Surtout les conseils qui viennent avec si vous voulez pas la laver vous-même.
On dit qu'une autre piste suggérée par les médecins, c'est que le café aiderait à réduire l'inflammation qui a tendance à être plus élevée le matin et par conséquent, réduirait le risque de maladie cardiaque.
Sais-tu ce que j'ai entendu aussi? Quand toi, t'as des gros maux de tête, migraines et tout, là, on m'a toujours dit, prends deux Advil avec un café. Comme si la caféine activait soit le médicament, soit ça aidait aux maux de tête en partant. Là.
Ouais, mais ça, c'est un médecin qui t'a dit ça?
Je me souviens plus. Fait que je m'avancerai pas, je veux pas mentir.
Parce que moi, ma grand-mère...
Mais ça marche!
Ma grand-mère, j'avais confiance en elle.
Franchement!
J'avais vraiment confiance en elle. Puis elle m'a... dit des mensonges pendant toute mon enfance.
OK, ben c'est-tu quoi, Yann?
Mets ta tuque, tu vas pogner la grippe.
Oui, ça, c'est faux.
Traîtresse.
Oui, le froid, ça change absolument rien. Si vous ne saviez pas, c'est un mythe. Par contre, j'ai quand même quelque chose qui peut peser sur la vérité. Ils vendent à la pharmacie des Tylenol caféine.
Des Tylenol caféine?
Oui, ils mettent de la caféine dans le Tylenol, probablement que ça active quelque chose. On a un docteur tantôt, il faudrait aussi poser cette question-là. Ouais.
Peut-être une autre fois.
Peut-être un autre moment, mais quand même, ça va, c'est une question qui vaut la peine d'être posée.
Frank, il dit, mes parents sont comme toi, Marceau. Ils prennent un café à 23h le soir, puis ils se couchent à 23h30 sans problème.
Ben, ouais, c'est parce que quand t'es habitué d'en boire, ton corps s'habitue.
La Philips 3200, pour le prix que ça vaut vraiment la peine. Elle vient souvent en spécial. Le café goûte plus la diarrhée comme dans des restaurants qu'on connaît bien, qui vendent du café.
Oui.
Oui.
Ben, y en a qui trippent ça, qui ont une machine à la maison, là, capote. C'est juste que faut que t'aimes ça, faut que tu prennes le temps. Tu sais, moi, je sais que je serais pas le genre de personne qui moulerait nécessairement. Je ferais ça en fin de semaine, pas en semaine.
Marceau, t'as-tu une migraine? Mais non. C'est une question personnelle, je viens de la comprendre.
J'en prends un
le matin et un à 13h, mais quand je me considère comme un gars du Pacifique, je suis correct. Il est 10h dans l'Ouest.
Ouais.
Ta chaudière, t'apprends-tu au Tim? C'est 3 cafés. Ouais, ça, c'est ça. Je pouvais prendre 3 gros cafés sans aucun problème du Tim Hortons, sans absolument rien ressentir.
Mais toi, quand t'en prends, t'arrives avec tes carafes, c'est ça. Là,
c'est le bonheur. Café, là. Moi, le café, c'est le bonheur. Ça fit avec le bonheur.
Tu vois, il y a quelqu'un qui confirme ici. Que les Tylenol avec le café, ça fait la job. Fait que si vous avez des gros maux de tête, essayez ça.
As-tu écrit des R avant le texto?
Non. Non, mais à la gang, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné dans la vie, à la gang, on sait tout. Puis je me dis que si les gens le confirment, c'est parce que ça doit pas être fou.
Ici, en Californie, nous avons beaucoup de lumière, étant donné que le soleil se lève à l'est et malheureusement aussi à l'ouest. Hey, je te salue, tu es en Californie, j'espère que tu n'es pas dans le secteur de Malibu, là, parce que ça brasse un peu. Ça doit être atroce. Hein? Puis je regardais, bon, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse vraiment, là, mais Paris Hilton, tu connais-tu ça?
Oui, ben oui, mon Dieu.
La fille des Hilton, les hôtels, elle disait qu'elle a appris que sa maison brûlait quand elle regardait les nouvelles.
C'est capoté, là. Il y a beaucoup de maisons de vedettes, en fait, dans ce coin-là, qui sont déjà complètement rasées, là. Il y a quelqu'un qui nous dit par rapport au café que peut-être que tu es capable de dormir, mais avant le dodo, en fait, le problème, c'est que ça influence les étapes du sommeil. Fait que ton sommeil va être plus léger, puis moins profond, puis paradoxal.
Hey, ça fait un bout que j'ai pas parlé à la madame du sommeil, là. Qui interprète les rêves, tout ça. Là.
Oui.
T'avais aimé ça, hein? C'était-tu avec toi?
Oui, c'était avec moi, je pense. Ben moi j'en ai un qui interprète les rêves.
Ouais.
Puis j'ai une fille qui est docteur spécialisée en sommeil. OK. C'est probablement qu'on l'avait reçu ensemble.
Mais on pourrait essayer un docteur spécialisé en sommeil.
Ben totalement. Écoute, ça vaudrait peut-être la peine de se faire un petit refresh. Là.
Non, il parlera de toutes nos... C'est une docteur, c'est ça?
Oui.
Parfait. Fait qu'on va y faire plus confiance qu'à moi-même. 10h20, on va s'en aller à la musique, les amis. Caravane avec Maxime. D'ici là, si vous avez des choses à nous dire. 418-971-1021. Dans 30 minutes, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. On a un invité en studio. Je me suis dit, ah, c'est un gars de Québec. J'ai déjà vu la face. Carl Ruel, qui est un agent correctionnel retraité avec qui on va passer les prochaines minutes. Moi et Audrey, on a énormément de questions à poser par rapport au milieu carcéraux. C'est le genre de sujet qui nous intéresse.
Ben oui, puis c'est d'actualité aussi dans mesure où, dans les dernières semaines, on n'arrête pas de voir dans les journaux puis dans les médias comme quoi il y a des agents correctionnels qui se ramassent à l'hôpital à cause de détenus. Fait que tu te demandes un peu ce qui se passe derrière les portes, là. Puis bien là, on va avoir la chance de le savoir.
Carl Ruel, salut!
Bonjour.
Merci d'être en studio avec nous autres. T'as été agent correctionnel pendant combien d'années?
Moi, j'ai fait 25 ans au pénitencier à Donnacona.
Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce métier-là? Je veux dire, est-ce qu'on est en disant, hey, moi, je vais être agent correctionnel? J'ai souvent entendu parler, moi, je vais être policier, moi, je vais être pompier, mais s'occuper des détenus en tant que tel.
Je te dirais que c'est un petit peu un concours de circonstances pour beaucoup de personnes.
Ouais.
Effectivement, c'est sûr que tu te lèves pas là, à 4-5 ans en disant « moi, je vais être
agent correctionnel ».
J'avais pensé à être policier à un moment donné. J'avais un problème de d'œil à ce moment-là.
OK.
Puis les opérations pour les yeux n'étaient pas encore
aussi développées
qu'aujourd'hui. Fait que je me suis orienté plus vers le côté correctionnel là, par après.
Quand t'es rentré, c'était-tu tough?
Moi, je suis rentré, c'était en plein cœur de la guerre Hells Angels Rock Machine.
OK.
OK. C'était assez tough, oui. On avait des incidents régulièrement, oui. On avait une surpopulation carcérale parce qu'à cette époque-là, il y avait des détenus en double occupation. Mais je dirais, pour beaucoup de raisons, c'était moins tough qu'aujourd'hui,
okay.
Au moment où je pars.
Mais il y avait peut-être une notion de respect à l'époque?
C'est-à-dire que...
À votre égard, là?
Ben, à ce moment-là, les seuls détenus qui étaient séparés, qui n'étaient pas en contact un avec les autres, c'était justement les Hells Angels et les Rock Machines. Donc, ils étaient dans deux secteurs différents. Mais les autres détenus, tout le monde était mélangé. OK? Fait qu'il y avait moins de chaque gang avait son influence entre les détenus, mais face à nous autres, c'était moins un conflit face à des gangs. Et à cette époque-là, on avait beaucoup plus de crimes organisés à l'intérieur. Donc, justement, des motards, mais il y avait aussi de la mafia, il y avait les Irlandais, il y avait toutes sortes de choses. Puis le fait qu'ils devaient cohabiter tous ensemble, ben ça faisait qu'il y avait une meilleure entente. Puis face à nous autres, ben c'est des gens du crime organisé. Tu sais, eux autres, là, c'est business, hein? Fait qu'eux autres, ils comprenaient bien beaucoup que s'ils sont toujours en confrontation avec le personnel, ben le business à l'intérieur, elle fonctionne pas, là.
Oui, ne pas attirer l'attention, je pense que c'est ce qu'ils ne voulaient pas faire dans le temps.
Oui, bien c'est ça. Puis il y avait, okay. Des vrais leaders influents. Fait que des fois, il y avait comme, tu sais, il venait nous voir, « Regarde, tel gars, il est à problème, tu sais, il faudrait peut-être passer à le sortir parce que là, ça fait du trouble. » Des fois, nous autres, à un moment donné, là, on passait notre message aussi que, tu sais, tel gars, il faudrait qu'il se calme, là, parce que, tu sais...
Puis vers la fin de ta carrière comme agent correctionnel, qu'est-ce qui avait changé?
Je dirais, c'est toute la gestion par UIS qui a beaucoup changé. Pour mettre en contexte, avant, il y avait un secteur d'isolement. OK? Fait que dans le secteur d'isolement, tu avais les détenus qui demandaient protection. Ça, c'était volontaire.
Ouais.
Puis tu avais les détenus qui, eux autres, avaient fait une petite infraction disciplinaire, mettons. OK? Fait qu'eux autres, ils étaient là quelques jours, une semaine ou deux. Et là, ben, à un moment donné, avec l'arrivée du nouveau gouvernement qu'on a eu dans les 10 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Autant...
Ça, c'était fédéral, ça?
Moi, c'est fait... Moi, je suis au fédéral. Okay. C'est 2 ans et plus.
Fait quand Justin Trudeau est arrivé, il y a des choses
quand
qui ont changé.
Quand Justin est arrivé, ben, c'est toute la mentalité qu'on connaît depuis ce temps-là. Là. Je veux pas faire de politique d'un bord puis de l'autre.
En fait, les conservateurs ont toujours été tough on crime.
Ouais,
les...
c'est un petit peu plus, ouais, un petit
les
peu plus contrôlé.
Les libéraux ont toujours été un peu plus soft.
Ben,
on
pour
crime.
Te donner une idée, lorsque le gouvernement Harper a fini, lui avait augmenté les sentences minimums pour beaucoup de types de criminalité.
Les agressions sexuelles.
Il y avait plus de sauts, les choses reliées à la drogue, les choses violentes. Il avait augmenté justement l'éligibilité aussi aux libérations conditionnelles. Il avait annulé tout ce qui était le temps fait en détention pendant les procédures comme prévenu. Principe que le temps fait compte en double. Lui, il avait ramené ça à dire, regarde, c'est du temps simple. Fait que t'as fait 6 mois en détention pour ton procès, mais t'as 6 mois de ta sentence de fait. Quand Trudeau est arrivé, lui, il a tout changé ça. Fait qu'il est revenu, le temps double, il est revenu. Là, c'était, fallait libérer des détenus en conditionnel. Et il a mis fin aussi à ce qui était l'isolement proprement dit pour faire une gestion, le nom qu'ils ont trouvé, c'est l'unité d'intervention structurée. OK? Là, on n'a plus le droit de mettre les détenus en isolement comme tel. On a une durée maximum par année. Et là, on doit trouver des alternatives. OK? Ce qui fait que là, présentement, on sépare tous les détenus qui ne sont pas compatibles. On les regroupe en petites populations, entre eux autres. Mais là, l'établissement n'est pas fait pour ça. Et là, ben, quand tu regroupes tel groupe de criminels ensemble, ben, eux autres, dans leur façon de faire, ils viennent de prendre un pouvoir, ils viennent de prendre le contrôle d'un secteur. Puis l'autre secteur à côté, c'est la même chose. Puis l'autre, c'est la même chose. Fait que là, il y a beaucoup plus de confrontations. Il y a beaucoup plus... ils sont plus mélangés. Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a plus de danger pour nos agents carcéraux?
En tout cas, le nombre d'incidents n'a pas baissé.
Okay, il est en augmentation.
Oui, il est en augmentation à cause de ça. Quand un détenu, on ne peut plus le mettre dans un secteur, on l'envoie un petit peu dans l'UIS, mais là, il faut qu'on trouve une alternative. Donc, on l'essaye dans une autre population. Mais là, des fois, ça ne fera pas là non plus. Fait que là, les détenus vont le sortir, avoir une agression pour le sortir de là. Ben là, nous autres, on est confrontés à faire face à plus d'événements violents. Plus d'événements. Puis là, ben, qui dit agression, ben, dit risque de blessure, autant pour les détenus que pour le personnel. Exposé à plus de sang, donc de contamination. C'est toute une chose là, qui. C'est comme une spirale.
Ouais,
là,
c'est un servicieux.
Ouais, c'est ça, un servicieux. Ça, je cherchais.
Je te regarde la charpente, là, je me suis dit, écoute, y a-t-il un frigidaire qui rentre en studio? Est-ce qu'ils s'en sont déjà pris à toi?
J'ai déjà eu des agressions. Il y a une agression, entre autres, mais elle n'était pas dirigée envers moi. C'est que à cette époque-là, j'étais gestionnaire, puis je rencontrais un détenu en audience dans mon bureau. Puis un détenu d'un autre secteur, il avait eu le contrat de s'en prendre à ce gars-là.
Dans le passé.
Fait que lui, il est arrivé dans le bureau avec un arme artisanale. Le détenu, il est assis comme en avant de moi. Là.
C'est un pic, là?
Oui, un pic, exactement, un pic. Donc, il est venu pour le poignarder. Fait que là, ben, mon réflexe, moi, j'étais aussi dans le groupe d'intervention, donc un réflexe plus d'intervention aussi. À ce moment-là, ben, je me lève, je bloque le coup. Le détenu qui devait être agressif, il va se cacher en arrière de moi. Fait que là, moi, bloqué à le cou, j'ai la lame qui m'a à côté de la gorge. Puis là, j'ai lancé le bureau sur le détenu. Puis là, après ça, ben, les autres agents ont sonné l'alarme. Puis là, les autres sont arrivés. Puis le détenu s'est couché à terre, se faire menotter, se faire emmener en isolement. Là.
Êtes-vous payé assez cher pour ce job-là? Tu sais, quand t'es pogné pour essayer de sauver la vie d'un détenu, là...
Ben, je dirais, en partant... pour moi, mais je pense que c'est valable pour pas mal tous mes confrères, quand on arrive dans une situation d'urgence, oui, c'est des détenus, mais on oublie un peu. C'est le réflexe humain qui sort d'aller sauver une vie, OK? Nous autres, on peut même mandater, on peut tirer avec un arme à feu, on peut tuer quelqu'un qui est en train de faire une blessure grave, puis peut-être mortelle, à un autre détenu. Mais si on est, juste pour la question, si on est payé assez cher, écoute, on a quand même des bonnes conditions. T'sais, moi, je suis retraité depuis le 4 juillet, j'ai 53 ans, OK, 25 ans de service. On a quand même des bonnes conditions. Est-ce qu'on voudrait être payé plus? Oui. Par contre, je dirais que le besoin le plus criant, outre un bon salaire, surtout le provincial, sont moins bien traités que nous autres, c'est plus de support, plus d'équipement, plus de sécurité.
Ouais. T'es-tu sorti de là, poqué?
Moi, j'ai un syndrome de post-traumatique là, ouais. que je commence à mieux gérer, là.
Puis, exemple, là, comment ça peut se traduire? Tu es dans une pièce, tu te mets tout le temps le dos au mur, tu laisses jamais personne te passer non. derrière?
Bien, ça c'est comme un réflexe qui vient normal pour nous autres, OK? Ouais. Fait que ça, c'est pas parti du post-traumatique. Puis ça, la réaction, les manifestations de post-traumatique sont propres à chacune des personnes qui en a un. Moi, c'est que j'ai de la misère à contrôler mes émotions.
OK.
Fait que je vais pleurer bien facilement. Je vais je vais me sentir dépassé par quelque chose assez vite. Que je vais embarquer un petit peu comme en panique, si tu veux, là. T'sais.
C'est-tu venu de cet événement-là que tu nous as partagé, ce choc post-traumatique-là? Ou c'est l'accumulation?
Ben, c'est ça. Ça, c'est la particularité des chocs post-traumatiques. Souvent, les gens vont penser... vont avoir comme référence, mettons, les militaires suite à un gros événement, une grosse journée de combat, puis tout ça. Ça en fait partie. Mais effectivement, il y a l'aspect que accumulation de plusieurs choses. Et surtout, ben, tu sais, nous autres, oui, on fait ce travail-là, mais en dessous de la chemise, on est des personnes comme vous autres, avec des réalités familiales comme vous autres, le stress de n'importe quoi d'autre de la vie courante. Fait que des fois, il arrive des événements, puis c'est juste qu'au moment que l'événement arrive, t'es plus vulnérable. Mm. Donc, les choses qui pourraient m'affecter moi, peut-être que toi, ça serait moins important. OK? Et malheureusement, pendant beaucoup d'années, mais presque toutes les années que j'ai travaillé, on a un peu la mentalité intérieure, ben on fait ce qu'on a à faire, puis on veut pas être faible, puis on se ferme la gueule. Fait qu'entre nous autres, on oublie de vérifier, tu sais, comment tu vas, puis tu sais. Puis là, ben la routine embarque, tu sais, le travail sur des corps de travail, tu sais. Puis
c'est beaucoup d'accumulation quand tu sors de là, mettons.
Ben c'est beaucoup d'accumulation, là, pour...
Avez-vous une peur de croiser des détenus à l'extérieur?
Peur, non, parce que, ben, premièrement, nous, en étant fédéral, puis en étant le seul pénitencier maximum, on a des gens d'un peu partout. Donc, on n'a pas juste des gens de Québec. Contrairement à Saint-Ville, qu'eux autres, ça rentre à tous les jours à pleine porte, c'est beaucoup de monde de la région qui vont se ramasser là. Nous, ça va arriver, mais c'est moins. Personnellement... moi, j'ai toujours eu une bonne réputation face aux détenus puis avec mes collègues de travail.
Parce que tu étais droite.
Parce que j'étais droite. J'étais droite pour des deux bords. Puis en plus d'être droite, j'étais capable d'être conciliant. Je savais quand c'était le temps de donner un petit peu de lousse pour certaines situations, puis après ça, resserrer la vis plus pour régler un problème, si tu veux. Fait que ça m'est arrivé d'en croiser. Mais il y a une fois que ça aurait pu mal virer, puis les 3-4 autres fois, ça s'est très bien passé. Puis la fois que ça aurait pu mal virer, ben c'est sa blonde qui l'a ramassé par les cheveux, puis elle dit tout, mon grain innocent, tu ne retourneras pas en dedans. Il a été porté dans le char. Il a été porté dans le char, puis il est revenu s'excuser après. Dans mon cas, c'est ça. Mais il y a toujours cette possibilité-là. C'est sûr qu'il pourrait avoir la possibilité qu'à un moment donné, T'en pognes un peu,
particulier,
là. C'est ça, ouais.
Est-ce que ça peut exister, l'amitié entre agents carcéraux puis les détenus?
Amitié, non.
Non.
OK. Avec certains, avoir les relations vont beaucoup rester superficielles. OK? Avoir une meilleure communication avec certains, savoir que avec un tel, oui, on peut se parler. OK? Puis ça va rester au niveau se parler, puis on va être capable de gérer des affaires. Oui, il y en a plus que d'autres. Ensuite, il y a le contexte lorsqu'on s'en va, mettons, en escorte ou on s'en va, mettons, de surveillance à l'hôpital. Là, on est tout seul avec le détenu. Puis il faut comprendre que les détenus aussi, ils ont un peu leur image à protéger face aux autres. Fait que s'ils sont trop proches des agents, c'est un peu moins bien vu. Quand on est tout seul avec eux autres, bien là, des fois, là, ils nous parlent de leur famille, puis ils nous parlent de ci, ils nous parlent de ça. Moi, je fais de la moto, mais il y en a qui me parlent de moto, tu sais. Avoir une bonne relation avec certains, oui, mais jamais, ça ne descendra jamais au niveau d'amitié.
Carl-Ruel, est-ce que tu t'es déjà fait tester? Est-ce qu'on t'a déjà demandé si tu étais capable de rentrer quelque chose en dedans?
Souvent, ça va arriver un peu en joke, si puis ça. Mais moi, j'ai pas eu de demande officielle. Puis de toute façon, quand il y en a un qui m'avait dit une affaire de même, tu sais, j'avais dit, moi, il va falloir que tu compenses pour mes 20, 25 ans de salaire, puis mon fonds de pension, puis ma qualité de vie, puis il faut que tu me donnes assez d'argent que je vais quitter le Canada. Fait que je suis pas sûr que ça vaut la peine pour rentrer ta cigarette.
Est-ce que tu as déjà pogné des collègues à faire ça?
J'ai eu connaissance d'un employé civil.
Ça, vous devez vous sentir trahi. Hein? C'est parce que là, un collègue qui fait quelque chose qui pourrait être néfaste pour vous autres, exemple un couteau, quelque chose.
Oui, je vais t'expliquer. Quand je disais tantôt, les détenus, c'est beaucoup de business.
Ouais.
Okay? Lui, cet employé-là, il avait des problèmes d'argent, puis c'était quelqu'un qui jouait beaucoup. Okay? Mm. Donc, ils ont comme fait une proposition, comme en faisant croire que c'était un one-shot, avec un beau petit montant intéressant, tu sais. Puis lui, ben sans faire pas exprès, tu sais, la pression de son problème financier, il a embarqué. Mais tout de suite après, il a déchanté parce que la deuxième fois qu'ils sont venus le voir, ben là, il tenait à la gorge. Fait que là, c'était plus intéressant. Puis là, ben lui, suite à ça, c'est lui-même qui s'est...
C'est vendu.
Qui s'est dénoncé, là, tu sais.
Tentative d'évasion, t'as-tu déjà eu affaire à ça? Des gars qui essaient de se sauver?
Moi, il y avait eu une évasion à Donnacona quelques années avant que j'arrive.
OK.
OK. Tentative officielle comme telle, non. Moi, n'ayant été dans le groupe tactique d'intervention, ben on a toujours des détenus plus ciblés, des détenus qu'on considérait comme à haut risque d'évasion. Donc, quand il arrive, quand ces détenus-là doivent être déplacés, c'était nous autres, le groupe d'intervention, qui le faisait. Fait que j'ai pas eu à faire face à une vraie tentative. C'est arrivé des fois, m'emmener les informations rentrées, qu'il faut peut-être avoir de quoi essayer quelque chose ou quelque chose qui était en préparation. Puis à ce moment-là, nous autres, le GI, on était contactés. Fait que j'ai pas eu de vraie tentative. Mais est-ce qu'il y en a qui ont un début de planification? C'est possible.
Ouais. J'ai des chums dans la police de Québec, puis certains sont patrouilleurs dans le secteur de Saint-Roch, puis ils mentionnent qu'à chacune des interventions, si on les compte sur 100, mettons, il y a à peu près 80% que c'est de l'intervention pour de la maladie mentale. Puis j'ai un gars avec qui j'ai joué au hockey, qui était un agent carcéral aussi, qui me disait « c'est à peu près la même affaire en dedans ». T'as-tu constaté ça, toi aussi, au niveau fédéral, qu'il y a des gens qui devraient être un peu plus à l'asile psychiatrique que dans une prison?
C'est clair. Je peux pas dire quelle année, mais rappelez-vous, à un moment donné, quand ils ont fait la désinstitutionnalisation, là,
ouais.
Okay?
Ça a commencé dans les années 70, mais...
Il y a eu un blitz, là, quelque part des années 90, là, au début de 2000, peut-être, mais dans les années 90, il y a eu un blitz de ce côté-là. Écoutez, je vais te faire un parallèle. Okay? Comme moi, présentement, j'ai un rhume. Là. Puis ma médication pour les sinus, j'oublie de la prendre le matin. Et moi, c'est rien qu'un rhume, c'est pas grave. les gens avec des maladies mentales, souvent, ils ont besoin de médication. Puis là, on les laisse dehors en disant, ben on va t'appeler une fois par semaine, on va, whatever, je sais pas l'encadrement qu'ils font. Donc, c'est sûr que ça dégénère. Et ces gens-là, ben ils se ramassent en milieu carcéral. Puis là, encore, un peu le service sup, la spirale. Des fois, ils font des choses. Puis, mais effectivement, la quantité de médication qui est donnée au pénitencier à Donnacona, c'est incroyable. Puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est lié à différentes problématiques de santé mentale. Là.
Est-ce que ces gens-là sont est-ce qu'ils sont récupérables? Tu sais, quand tu es en prison en raison de d'une mauvaise santé mentale, puis à un moment donné, tu es obligé de prendre tes pilules, puis tu as fait de quoi de complètement débile, tu te ramasses au fédéral, tu as 2 ans. Si tu sors puis tu oublies tes pilules, tu vas retourner au fédéral plutôt que dans un hôpital?
Bien, pour les cas extrêmes, le fédéral, on a une unité de santé mentale.
Okay.
Ça, déjà, en partant, j'aurais dû commencer avec ça. Ça vous donne une idée à quel point le phénomène il est présent. Là, on a une unité spéciale, mais ça, c'est pour les cas extrêmes. OK? Mais on va en avoir d'autres. C'est pas toujours des cas extrêmes. OK? Mais, tu sais, quelqu'un qui maîtrise pas sa colère, des fois, dans certains cas, une certaine médication va pouvoir aider. C'est sûr que quand il sort, ben là, c'est plus problématique. Nous c'est fréquent, quelqu'un qui sort, parce que nous autres, c'est 2 ans à perpétuité. Fait que si quelqu'un peut sortir après 5 ans sur une sentence, exemple, de 15, ben on va le voir revenir 3, 4, 5 fois pendant ce temps-là, parce qu'il est en conditionnel jusqu'à la fin de la sentence de 15 ans.
Est-ce que tu trouves que les détenus sont... Puis écoute, c'est parce qu'on a tellement lu ça, on dirait, dans les dernières années. Les détenus sont mieux traités que nos personnes âgées en CHSLD. Puis là, tu viens de parler d'unité de santé mentale. Puis j'ai comme eu le sourire parce que, simple citoyen, on a de la misère à avoir accès à des professionnels en santé mentale. Tu répondrais quoi à ça?
Il y a du oui et il y a du non. OK? Dans le sens que pour diminuer le transport de détenus en communauté, c'est-à-dire aller dans les hôpitaux, aller dans des différentes cliniques, ben on a un centre de soins à l'intérieur. OK? Donc, le fait d'avoir un centre de soins à l'intérieur fait que oui, le détenu, il va rencontrer le médecin plus rapidement que beaucoup de citoyens. OK? Ça c'est vrai. Puis là, quand le médecin dit, ben là, il faudrait que je sois vu par un psychologue, mais il y a des psychologues à l'intérieur. Fait que, ça va se passer beaucoup plus vite qu'un citoyen. Ça, c'est vrai. Mais c'est parce que ça, ce bout-là, il est lié au fait que, ben on le gère à l'interne. T'sais, sinon, on serait pogné pour avoir 10-12 escortes par jour dans les hôpitaux à travers les citoyens, puis c'est un peu dérangeant. Par contre, oui, encore là, avec notre ami Justin, ben présentement, la façon de voir les détenus, ce n'est pas c'est pas géré comme un citoyen condamné pour des actes criminels, mais c'est vu comme une personne en besoin d'aide. OK? Fait que là, ils se gênent pas pour engager du personnel civil de différentes natures. Et c'est vraiment pour eux, puis ça, c'est un problème pour nous, surtout les vieux comme moi, donc on n'est pas habitué à ça. Bien, eux, ils voient vraiment comme une personne en besoin d'aide, qui a besoin de service, et là, il faut qu'on lui donne le service. Ça, j'avoue que ça coûte une fortune et que c'est très frustrant pour la population.
Je vais te poser une question bien personnelle. C'est-tu dur d'être traité tout sur le même pied d'égalité quand tu regardes... la télé, puis après ça, tu vois ce qu'il a fait. C'est tragique, ça va à l'encontre de tes valeurs, puis tout d'un coup, tu le vois arriver, puis c'est toi qui s'en occupe. C'est-tu dur de le traiter sur le même palier que les autres? Attends, quelqu'un qui a tué ses enfants.
Ouais, ben comme je disais tantôt, on est tous des humains en dessous de l'uniforme. Hein? Fait que c'est sûr que chacun a
des points faibles.
Des points faibles, oui, c'est sûr. Chacun a des points faibles pour... de mon côté, ce qui nous a aidés, Donnacona, c'est un sécurité maximum de population régulière. Contrairement, exemple, Port-Cartier, où c'est un pénitencier de protection. Donc, le profil de criminalité que nous, on a, n'est pas pareil. OK?
Fait que les pédos sont pas là.
En théorie. Je te dis pas qu'il n'y a pas de dossier, qu'il y a une section demandée dans le dossier que le gars a fait une agression. Là.
Ouais.
Mais reste qu'en général, OK, les gros pédophiles, toutes ces choses-là, ça va être plus à Port-Cartier puis à Macasa que chez nous. Fait que ça, ce côté-là, on est moins confronté à ça. Mais des fois, ben comme toute personne, c'est comme vous autres, des fois, vous rencontrez quelqu'un et vous dites, hey, lui, là, après 5 minutes, je crisserais mon poing sur la gueule. Ben, nous autres, c'est la même affaire. C'est ça. Ben, nous autres, c'est la même affaire. Il y a certains traits de personnalité. Moi, en tout cas, il y a certains traits de personnalité, des fois, qui venaient me chercher plus facilement que d'autres. Ensuite, ben, je sais qu'il y a plusieurs collègues qui vont analyser les dossiers en profondeur. Moi, je l'ai moins fait. Parce que je me dis que pour mon travail au quotidien, j'ai pas à part les détenus que j'avais à ma charge, j'ai moins besoin de tout savoir les particularités de chacun dossier pour éviter ça. Mais c'était pas pour être un bon agent et être meilleur que les autres. C'est juste que moi, je trouvais que c'était plus facile pour moi de garder le contrôle si je m'occupais. Moi, j'ai besoin de gérer au day to day. Okay? C'est pas moi qui fais la thérapie à long terme. Fait que j'aimais mieux pas avoir trop de détails.
T'as-tu tombé sur des cas célèbres?
Des cas connus, oui. C'est sûr qu'on en a eu là, quelques-uns. Mais les cas les plus médiatiques, c'est souvent des affaires affreuses, puis ça remonte plus à Port-Cartier.
Ouais, okay. Les trucs que tu as retrouvés dans les cellules des détenus que tu disais, voyons, jamais j'aurais pensé tomber là-dessus. T'sais, on parlait des pics tantôt, là, qui ressemblent un peu à des crayons, là, puis ça sert à poignarder les gens. Y a-tu des choses que tu dis, je m'attendais jamais à tomber là-dessus?
Que je m'attendais jamais, non. Moi, j'ai été bien encadré. Quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'agents d'expérience. Puis, tu sais, j'étais bien entouré là, de ma gang là, à ce moment-là, en 98. Puis, mais de voir la créativité, ça, oui. Tu sais, exemple, trouver un arme à feu artisanale, de trouver ça à un moment donné, je suis pas comme surpris pour ta question. Mais surpris de voir la créativité en arrière de ça, les alambics, la créativité qu'ils font pour, tu sais, écoute, il y a un collègue, c'est pas moi qui l'a trouvé, mais j'ai vu les photos, le détenu, il a réussi à faire une espèce de faux mur en dessous de son lit. Puis en arrière de ça, c'était toutes des bouteilles d'alcool frelatées.
Mais voyons donc.
Il y a un détenu, à un moment donné...
Il y avait un petit bar.
Oui, lui, il était distributeur.
Hey, c'est capoté, hein?
Après ça, il y a un autre détenu. Quand tu parlais d'évasion tantôt, ben on a retrouvé une tête de mannequin. Artisanale, là, faite avec, je pense, du papier mâché, puis de la peinture, là. Fait que, comme, ça confirme un peu ce que je te disais tantôt, que s'il y a eu des choses qui ont été tentées, oui, mais on ne s'est jamais rendu jusqu'à l'évasion. Mais c'est ça, fait que, là, voir la créativité qu'ils ont, leur façon d'être dans une place et de voir un objet, puis d'imaginer une utilisation qui est 100% opposée de pourquoi l'objet est fait, ça, il y en a qui sont très créatifs.
Ça, c'est capoté. Drôle de question, mais c'était quoi ta journée typique, mettons? Tu sais, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, les seules visions de prison puis de pénitencier que j'ai en tête, c'est ce qu'on voit dans les films.
Ouais.
Mais tu sais, au day-to-day, quand tu rentres le matin, ça ressemble à quoi une journée typique?
Bien, c'est ça. C'est que, tu sais, dans un film, je te dirais, tu vois dans le film, tu vas voir à peu près les événements qui sont tous regroupés dans le film, mais ça. Des choses qui pourraient prendre 6 mois, 1 an. Mm-hmm. Fait que c'est sûr qu'il y a des journées, des fois, il y a des journées qui sont plus routinières. OK? Fait que, exemple, je rentre de jour, en rentrant, premièrement, on fait un compte pour commencer la journée. C'est-à-dire que les détenus sont encore en cellule depuis toute la nuit. Fait que nous autres, on fait un compte. Quand on dit faire un compte, c'est pas juste compter le body, c'est qu'on s'assure qu'ils sont en santé puis qu'ils sont vivants.
Okay.
Fait qu'on fait un compte. Après ça, on les sort pour, mettons, le déjeuner.
T'en as-tu déjà trouvé des morts?
Moi, j'ai réanimé un pendu. Mais les détenus, trouver des détenus morts, oui, ça arrive. Ça arrive à chaque année. Morts soit par suicide, soit par agression, qu'on n'avait pas vu l'agression. Malheureusement, depuis beaucoup d'années, on a beaucoup d'overdoses que je dirais à 90% on les ranime. OK, mais ça peut arriver.
Les crimes, quand ils sont commis en dedans, y a-tu. Gérez-vous ça à l'interne ou c'est souvent la police du coin qui va faire l'enquête en dedans?
Nous, on a un service de renseignement à l'interne, mais évidemment, tout ce qui est criminel, on va référer ça au procureur. La police va venir justement avec des enquêteurs, puis nous autres, c'est la Sûreté du Québec qui va venir. Fait que c'est le même principe qu'un crime à l'extérieur, sauf qu'il y a une bonne partie que c'est nous autres qui a géré, comme saisir des éléments de preuve et tout, mais le dossier va être monté par les enquêteurs et le procureur décide s'il y a des accusations après ça. Qui est, parce que des fois, je ne compterai pas de menterie, une bagarre à coups de poing, textuellement, c'est dans le code criminel, c'est des voies de fait. Si la bagarre n'a pas eu trop de conséquences, ça, ce bout-là va être géré à l'interne.
Ça ne sort pas de... OK, je comprends.
Mais tu sais, trafic de drogue, tentative de meurtre, tout ouais. ça va au palais de justice.
OK, ouais. Les relations sexuelles, vous réglez ça comment?
C'est pas mal...
C'est-tu comme dans les films?
Ben, c'est pas comme dans les films. Physiquement, Donnacona n'est pas faite comme les vieilles prisons que tu vois dans les films. OK? Fait qu'il n'y a pas un local de douche puis qu'il sera mort 60 détenus à prendre le douche en même temps. C'est une section de douche qui est individuelle au bout de la rangée. Puis on envoie s'il y a deux douches. Il y a deux détenus qui ont besoin de prendre une douche, puis on envoie les deux détenus. Mais il y en a d'autres qui vont les... Des fois, quand on retrouve deux détenus dans la même cellule, on a une bonne idée de ce qui s'est passé.
Ils ont-tu le droit de...
Ils ont le droit de, nos bonnes autorités, même mettre à leur disposition des condoms puis des digues dentaires. Ils ont le droit. Est-ce que toutes les relations sont consentantes entre eux autres? Je te mentirais en disant oui. Il y en a qui sont consensuelles, probablement oui. Mais il y en a certaines que le gars, ben, c'est sa façon de survivre dans la place. Là.
Hey, vous voyez des affaires que...
Ben, moi, vois-tu ça,
les
moi...
Les jeunes voient pas.
Non, c'est ça. Mais moi, vois-tu, moi, ça, c'est niaiseux. En 25 ans, je n'ai jamais vu une.
Okay. C'est peut-être une bonne affaire.
Ben, pour moi, oui, là, mais...
Carl, je veux vraiment revenir à la journée typique. Fait que vous faites le compte des détenus.
Ouais. Là, après ça, on les sort pour aller en déjeuner. OK? Après ça, on les retourne en cellule. Là, on va faire une sortie pour ceux qui vont, exemple, dans certains ateliers de travail ou qui vont à l'école ou qui vont à différents programmes. OK? Et à chaque fois qu'on fait un mouvement de détenu, c'est toujours suivi par un compte parce qu'on est en maximum. OK? Nous autres, toutes les portes sont fermées partout. OK? Fait qu'à chaque fois qu'on bouge un groupe de détenus, ben il y a un compte. Quand les détenus arrivent à l'école, ben les officiers font un compte du nombre de détenus dans l'école. Puis là, nous autres, on a un compte en pavillon. Fait que si moi, j'ai envoyé 12 détenus à l'école, normalement, le compte de l'école devrait en avoir 12. Okay? Sinon,
on suit.
On essaie de suivre. Sinon, il est où l'autre? Des fois, l'autre, il est arrêté au centre de soins, mettons. Ou, okay. Mais on a tout le temps une trace. Il faut tout le temps qu'on sache.
Pas en perdre un.
Oui, puis qu'on sache combien il y a de détenus dans chaque local. Si on a une intervention à faire, il arrive quelque chose, je suis supposé d'être capable de répondre, de dire, bien... J'ai 5 détenus dans ce local-là. J'en ai 30 dans celui-là. Pour ça va influencer le genre d'intervention qu'on va faire. Là, l'avant-midi se continue. Après ça, on va avoir... Ça, c'est... Les gens vont trouver ça drôle. Là. On a une sortie pour les chômeurs.
Ah!
OK. Fait que ça, c'est un détenu que lui voudrait occuper un emploi, occuper des fonctions, puis qu'il n'en a pas disponible. Fait que là, lui, il va pouvoir sortir en salle commune en mi-avant-midi jusqu'au dîner. Puis les autres, ceux qui veulent rien savoir, eux autres, ils vont rester en cellule toute la journée.
OK.
OK? Ceux qui veulent pas, dis-moi, je veux pas travailler, je veux pas aller à l'école, je veux pas rien faire.
Si tu veux de l'air, faut que tu t'inscrives à quelque part.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, je vais te dire que... L'inscription, malheureusement, le système est fait, malheureusement, que c'est rare que ça part de l'initiative du détenu. OK? Le détenu, il arrive, il a besoin de suivi psychologique. Bien, son équipe de gestion de cas va faire le suivi, va faire les demandes. Le détenu, il a besoin d'aller à l'école. Il va être de facto quasiment admis sans pratiquement faire de demande. C'est un peu... on les responsabilise pas bien ben dans le cheminement.
Okay. Okay. Est-ce que on les paye quand ils travaillent?
Oui.
Ils gagnent combien?
Oh, là, je suis plus à jour là-dessus, je te dirais.
Dans le temps, ils gagnent combien?
C'est pas des gros montants. Ils sont payés à... quelques dollars par jour. Là,
Ils gèrent ça comment, l'argent de la cantine, toutes ces affaires-là? Ils ont-tu une façon de faire propre à eux? Ils gardent-tu leur argent dans leur cellule?
Ben, Non. Il n'y a pas d'argent monnaie sur place. Là, okay? C'est tout dans le compte, hein, comme une banque informatisée, si tu veux. Ouais. Là. Puis quand ils vont à la cantine, ben, c'est un lecteur de main. Fait que chaque détenu sa main a été enregistrée.
Scannée, oui.
A été scannée. Fait que là, ben, il achète une caisse de Pepsi, tel montant, ben, il met sa main, puis la transaction se fait dans son compte.
Automatique. Hein. Ouais, c'est bien ça. Fait.
Oui, c'est quand même. Ça, cet aspect-là, oui, est bien fait.
Il peut s'acheter une caisse de Pepsi puis ramener ça dans sa cellule.
Oui.
Il est au fédéral, là. C'est pas ici à Donnet.
Non, non, je comprends bien, là, mais c'est quand même spécial.
Il travaille. Ouais,
c'est un jeu. Ben, il travaille, mais c'est parce qu'il y en a aussi que la famille vont déposer de l'argent.
Hé, mon Dieu, moi, j'empêcherais. Puis écoute, je suis peut-être pas une bonne personne, j'empêcherais tout ça.
Ben, tu sais, exemple, la mère vient voir son fils, ben là, elle va déposer 200 $. Et le but initial de ça, il était quand même louable, c'est que t'as un peu comme nous autres, t'as le compte courant, puis t'as le compte épargne. Et il y a une obligation de mettre un montant d'argent dans le compte épargne. C'est parce que la réalité, c'est sûr que dans les films, tu vois tout le temps des gros caïds, puis tu penses que c'est tous des millionnaires, puis tout, là. Mais il y en a plusieurs de détenus, là, que ce serait des itinérants d'or. OK? Ah ouais. Ça n'a rien, ça n'a pas grand-chose. Fait que si en 10 ans, ils peuvent ramasser un certain montant d'argent, bien, lorsqu'ils sont libérés, on lui donne ce qu'ils ont dans le compte épargne, puis ça fait ce petite partance-là.
Deuxième chance.
Ouais.
Ish.
Carl Ruel, ça a été un super plaisir de vraiment te rencontrer. T'es un ex-agent correctionnel. T'es retraité maintenant. La retraite te va bien?
Oui, ben là, pour un petit peu, je suis quand même un petit peu jeune. Dans la station, je suis un des plus vieux à matin, là, mais comme retraité, je suis jeune. Fait que je travaille 3 jours semaine dans un grand magasin de Québec.
OK.
Ça me fait voir du monde un peu, puis ça complète. Parce que c'est sûr que moi, à la retraite, à 25 ans de service, j'ai pas la pleine retraite comme j'avais fait de 35 ans. Là.
C'est ça. Tu cours-tu à vrai valeur?
Pas courir. Regarde-moi la chaîne, puis je cours plus.
Tu as juste besoin de lui demander de vider ses poches. Carl Ruel, un gros merci d'être passé. Puis ben, peut-être qu'on pourra le recevoir une autre fois, parce qu'il me reste
encore des questions.
Un million de questions. Ça nous arrive souvent. Merci, Carl.
Ça fait plaisir.
Bye-bye. On est choyé d'avoir la visite qu'on a en studio. Je m'attendais pas du tout à ça ce matin. Ça peut être émotif pour ce qui est des prochaines minutes, mais je pense que c'est super important de le faire. Audrey, je vois tes yeux.
Très attentive. Oui.
C'est la première fois que tu rencontres Big Boss Bouchard.
Oui, Elliot, j'en ai tellement entendu parler.
Qui est avec nous en studio, qu'on a eu la chance de rencontrer lors de la fameuse journée des vœux de Noël de Leclerc Communication, où on a ramassé 80 000 $ qu'on a donné aux soins palliatifs du centre Mère-Enfant-Soleil. Mm-hmm. Puis Elliot était venu avec sa mère qui se nomme Geneviève. Très content de te revoir, Geneviève. C'est une journée extrêmement émotive pour toi aussi, j'imagine. Qu'est-ce qui me vaut la visite de la mère, du père d'Eliott, ainsi que de Big Boss Bouchard, de petit Eliott?
Qu'est-ce qui me vaut la visite? Ce qu'on voulait, dans le fond, c'est pouvoir faire, dans le fond, écouter encore la musique préférée à Eliott,
ouais.
Qui est Thunder.
AC/DC Thunderstruck.
Ouais, un show de musique, c'était pas vraiment viable. Mm-hmm. Fait que Geneviève, elle a eu cette idée-là, puis je pense que c'était une très bonne idée.
Puis Elliott voulait l'entendre à la radio.
Exact.
Pour vous mettre en contexte, Eliott Bouchard avait trois rêves, en fait, parce que là, il vient d'entrer aux soins palliatifs. Il y avait le rêve de faire un tour d'autobus qui a été fait ce matin. Il y avait le fait de pouvoir aller dans une loge au Rempart, ce qui va être fait vendredi. Et il y avait le fait de réentendre sa chanson préférée qui est Thunderstruck d'AC/DC à la radio. Fait qu'on s'est dit, en octobre dernier, on a eu sa visite ici en onde. Pourquoi pas revivre ce moment-là, lui faire revivre ce moment-là. Puis c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait ce matin. On a Dr Laflamme qui est là aussi. Eliott est atteint de la mucolipidose de type 2. Est-ce qu'on peut peut-être juste expliquer ce que c'est pour les auditeurs qui se rappellent quand même sa visite d'octobre dernier?
La mucolipidose type 2, dans le fond, c'est dans la catégorie des maladies orphelines, les maladies rares. En fait, c'est ce qu'on appelle une maladie de surcharge. C'est un défaut dans son corps qui fait qu'il accumule des mauvaises substances dans tout son corps, en fait, dans son cœur, dans son foie, dans ses mains. C'est une maladie qui est évolutive, qui est dégénérative. Eliott a dépassé largement l'espérance de vie moyenne des enfants avec mucolipidose type 2 et on en est super content.
C'est un champion.
Eliott a eu une belle qualité de vie, a vécu à 1000 à l'heure, en fait, surtout depuis le mois d'août où il y a eu son premier événement plus dangereux pour sa vie.
Entouré d'amour avec une famille formidable. Ouais.
Et là, en fait, dernièrement, depuis à peu près les 4 dernières semaines, ça va moins bien. Eliott se détériore, c'est surtout son cœur et ses poumons qui ne vont plus bien. Alors, avant-hier, il a failli pas se rendre à Québec. On a réussi hier matin à le transférer à la maison de soins palliatifs. Puis le but présentement, c'est qu'il vive encore des belles choses. Donc, qu'il soit confortable, puis qu'il finisse sa bucket list, en fait. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Fait que là, vous avez fait votre tour d'autobus?
Non, j'ai suivi en arrière. En fait, Eliott a fait son premier tour d'autobus jaune, comme ses frères et sœurs qu'il prenait. Wow. C'était super important. Il devait le réaliser chez lui, puis finalement, on n'a pas eu le temps. Fait qu'on l'a fait ce matin. Il s'est venu en autobus. Moi, j'ai suivi.
OK. Puis là, les remparts, c'est quand qu'on fait ça?
Demain.
C'est demain.
Oui, on essaie de faire les choses rapidement pour qu'il puisse en profiter pendant qu'il est encore bien.
Puis là, on a trouvé des belles places.
Ça a l'air que vous avez trouvé des belles places.
Ah, ouais.
Une belle loge, ça va être trippant comme moment.
Eliott, t'as toujours aimé le hockey?
Quand même.
Oui.
Quand même, il écoute le hockey avec...
avec toi, j'imagine.
Avec mon grand-père en masse, avec moi, puis...
Oui.
Il aime beaucoup patiner aussi. Patiner avec la marque.
Qu'est-ce qu'il dit?
Kaki.
Kaki,
c'est papy.
Oui, je suis ici, Kaki.
Kaki, c'est papy.
Oui, je suis ici.
Fait qu'il va vivre ça demain. Puis d'où vient son plaisir d'écouter la chanson Thunderstruck? C'est son père, son grand-père qui l'écoutait, puis il s'est dit, tiens, ça va être ma chanson préférée.
C'est plus le style à papa que maman, pas mal.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça, il y a beaucoup de variétés.
Ouais.
Il aime ça quand ça brosse un peu.
Ouais.
Oui, Eliott, je suis là.
Puis là, toute la famille est là, toute la famille est réunie. Ah, c'est le fun. Vous avez tous vécu ça avec Eliott. Il en manque un.
Il manque son plus petit frère.
Son plus petit frère. Il est où, là, lui, le petit frère?
Il est à la maison avec mamie, papy.
Il est à la maison avec mamie puis papy. OK.
Oui.
Fait qu'allons-y. On va faire entendre aux auditeurs ainsi qu'à Eliott, qui est notre invité du jour, la toune AC/DC Thunderstruck. Est-ce que tu me donnes le go, Eliott?
Yes.
On y va-tu?
Est-ce qu'on l'écoute, Eliott?
On écoute la musique?
On l'écoute?
Oui. On y va. OK. Je te fais entendre ça, Eliott, à l'instant. C'est parti. AC/DC Thunderstruck, spécialement pour Eliott Bouchard, qu'on appelle affectueusement Big Boss Bouchard, qui est avec nous en studio. C'était son rêve d'entendre Thunderstruck dans une station de radio ou d'assister à un show d'AC/DC. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de plaisir à entendre cette chanson-là. Tout le monde applaudissait en studio. Je vous salue. Vous êtes entouré d'amour. Vous êtes une super de belle famille. Puis demain, le match des remparts, ça va bien se passer.
Mm-hmm.
Puis c'est un plaisir de t'avoir rencontré, Geneviève. C'est un plaisir d'avoir rencontré ton conjoint aussi. Puis on vous souhaite le meilleur pour la suite des choses, les amis.
Merci.
Merci à vous autres. Nous autres, on va se laisser là-dessus. Je vous rappelle que vous êtes sur les zones de Boulevard 102.1. Pascal s'en vient dans les prochaines secondes pour la suite des choses. On vient.